Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour cette nouvelle séance d'études bibliques Béréen l'explorateur. Et nous sommes sur l'histoire de Job, Job qui vit des souffrances indicibles, des souffrances terribles et... Ça l'amène à pratiquement se fâcher contre Dieu. Et il est mal assisté par des amis qui l'accablent plutôt que le consoler et l'amener à revenir à Dieu dans la paix. Donc, finalement, ça devient une lutte entre Job, non seulement avec Dieu, mais aussi contre ses amis. Voilà l'histoire de Job, l'histoire d'une très grande souffrance dont l'homme cherche l'explication. Voilà. Donc, nous nous sommes arrêtés au chapitre 22, là où les amis de Job, finalement, ils trouvent des éléments factuels, des faits pour dire à Job que tu as quand même péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et comme nous l'avions dit précédemment, c'est des accusations qui ne sont pas à retenir pour nous les enfants de Dieu, puisque nous avons lu que Dieu a considéré Job comme étant intègre. On a lu ça au début. Et donc, on sait que si on doit chercher des gens qui nous accusent de plein de choses, on va toujours en trouver. Voilà. Mais les amis de Job vont là avoir raison dans leur débat, dans leur échange avec Job. Ben, ils finissent par sortir ces accusations-là, dont en tant qu'amis, ils devaient en parler autrefois, mais c'est maintenant qu'ils sortent ces choses parce qu'ils veulent avoir raison. Bien-aimés, chercher à avoir raison nous entraîne dans une spirale compliquée. Il faut, dans la vie, chercher à construire plutôt que chercher à avoir raison. Quand on veut avoir raison, ça peut nous entraîner dans des extrémités qui causeront notre chute. Donc il faut être prudent, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Le maître mot, c'est l'amour et la construction. Voilà. Ce n'est pas chercher à tout prix avoir raison. On dit la vérité et on laisse Dieu convaincre les cœurs. Donc nous prenons le chapitre 23 où, dans lequel Job répond à ses amis.
Job prit la parole et dit : Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert.
Voilà. Donc Job explique que son problème, c'est Dieu. Il dit que ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, mais c'est Dieu qui devient étrange pour moi. Il a comme peur de s'être peut-être trompé sur Dieu. Et il est fermement conscient que dans ce qu'il souffre, c'est Dieu qui est derrière. Et vous voyez, bien aimé, ce chapitre 23, il est particulier parce que ça nous montre le plus grand souci de Job. Le plus grand souci de Job, c'est de voir Dieu. Job, là, il ne cite pas la perte de ses enfants comme douleur terrible. Il ne cite pas la perte de ses richesses comme douleur terrible. Il cite l'absence de Dieu. Il dit, je veux le voir où ? Donc, c'est ça notre premier titre, voir Dieu pour plaider. Donc, il y a des moments dans nos vies où on se dit, mais il est où ? On a envie de faire les procédures qu'il faut pour le rencontrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je le rencontre, pour que je lui explique, pour qu'on discute, pour qu'il m'explique ? Il y a cette soif-là qu'on appelle dans la Bible « chercher la face de Dieu ». Donc quand les problèmes te dépassent, tu as prié normalement, tu as parlé normalement, tu as cru normalement, mais tu as l'impression que tu ne fais que t'enfoncer. Alors il ne te reste qu'une seule chose, voir Dieu lui-même, face à face, pour dire « mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Ça arrive à tous les enfants de Dieu. Donc nous devons chercher la face de Dieu. Ça s'appelle « chercher la face de Dieu ». En s'humiliant, en priant, comme Paul nous en parle dans Philippiens, par des prières et des supplications, des actions de grâce. Donc tu fais toutes sortes de prières qui doivent t'amener face à face devant Dieu. Toutes sortes de prières parce que tu te dis, il faut que je le trouve. Donc Job, son souci, c'est ça. Où est Dieu dans tout ceci ? Donc, il est convaincu que s'il rencontre Dieu, Dieu ne peut pas lui donner tort. Il est convaincu de son innocence. Il est convaincu de ça. Et il est aussi convaincu que le seul qui puisse l'anéantir, c'est Dieu. Ça aussi, c'est remarquable de la part de Job de vivre au fond de lui. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Job est confiant que ce ne sont pas les ténèbres qui peuvent l'anéantir. Ce n'est pas Satan. Seul Dieu peut le déstabiliser. Et c'est pourquoi il crie à Dieu. C'est pourquoi il ne comprend pas pourquoi Dieu le déstabilise. Il dit, il commence à me faire peur. Et ce n'est pas nouveau. Ça s'est déjà fait avec des gens avant. Mais nous sommes toujours appelés à nous incliner devant Dieu. Voilà, c'est ce que ses amis vont lui rappeler. Mais Job, son problème maintenant, c'est voir Dieu. Voir Dieu. Je nous appelle à cela. Quand les choses nous dépassent, quand on a fait ceci et cela, on a l'impression que ça traîne. Alors, cherchons Dieu. Il est écrit, cherchez et vous trouverez. Cherchons la face de Dieu. Et le Saint-Esprit nous inspirera. Ayons soif de rencontrer Dieu. Le Saint-Esprit nous inspirera peut-être à jeûner. Le Saint-Esprit nous inspirera nous parlera peut-être des péchés qui nous bloquent la face de Dieu, qui empêchent, qui occultent que l'on voit Dieu. Le Saint-Esprit nous entraînera dans le chemin de voir Dieu. Nous ne devons pas, rester juridique, rester dans une logique de religion où on dit, bon, j'ai prié, j'ai fait ceci, mais quand ça ne va toujours pas, nous devons aller plus loin. On doit dire, je veux voir le Seigneur. Je veux le rencontrer. Et ça peut nous pousser à jeûner, ça peut nous pousser à faire une veillée, mais on dit, je veux rencontrer Dieu. Je veux qu'il change ma vie, je veux le voir. Vous savez, il est écrit à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie. À celui qui a soif. Donc à un moment donné, nous devons manifester cette soif. Et quand cette soif commence à s'éteindre, Dieu permet des difficultés pour nous rebrancher dans cette soif. Parce que Dieu ne se manifeste puissamment que quand on a soif de lui. Donc Job a soif. Là, il dit, mais seul Dieu peut trancher cette affaire. Je veux le voir. C'est ça le cri du chapitre 23. Et en même temps, il confesse que Dieu est juste. Et lorsqu'il va le voir, Dieu le ramènera dans ses droits. Voilà. Mais il dit, Dieu ne veut pas que je le voie. D'ailleurs, il commence à me faire peur. Ce n'est même pas l'obscurité qui me dérange, mais c'est l'absence de Dieu. Vous savez, dans les séances précédentes, je l'avais dit, bien aimé, quelle que soit la souffrance d'un enfant de Dieu, quand il y a la présence de Dieu est plus forte que la souffrance. Quand vous lisez les histoires des chrétiens persécutés, souvent les gens disent, mais moi je n'y arriverai pas. Oui, tu n'y arriveras pas par la chair. Mais quand il y a la présence de Dieu, toi aussi tu vas y arriver. Les chrétiens qui sont passés par là pensaient aussi qu'ils n'allaient pas y arriver. Mais ils y sont arrivés parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Et Dieu, par sa présence, reste supérieur à tout, même aux souffrances les plus grandes. Donc c'est pourquoi le problème de Job, c'est Dieu. Il dit, mais Dieu, c'est lui qui m'accable, parce que si lui, il était là, je surmonterais tout ceci. Voilà le problème de Job. Il reste dans la confiance en Dieu, que Dieu est tout-puissant. Il appelle même le Tout-Puissant. Donc, il reste dans la foi en Dieu. Il est juste dans l'incompréhension, mais il garde la foi en Dieu. Nous prenons... Oui ?
Il y a une question Internet. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas ? Ça ne fait pas partie du contrat qu'il a fait avec Satan ?
Je crois qu'il y a une partie de cela. Si Dieu venait aider Job, bon, ça annulait en quelque sorte presque l'épreuve. L'épreuve est toujours là. Non. Attention, l'épreuve est toujours là. Parce qu'on est des humains faits de chair. Donc que tes enfants meurent, même s'il y a la présence de Dieu, ça te donne la paix, mais ça reste une preuve. Ça reste une preuve, ça reste de la souffrance. Mais il y a une force qui te porte et qui dépasse ça, mais ça reste un problème. Voilà, l'épreuve est toujours là, mais ben, si Dieu vient trop aider, ce n'est plus Job. Donc Dieu livre Job à Satan comme il avait livré son propre fils Jésus. Donc Job, c'est vraiment un type de Christ. Donc Dieu n'intervient pas. On a vu ça aussi avec le Seigneur. Pourquoi tu m'as abandonné ? Le Seigneur a crié. Dieu n'intervient pas pour que ça soit à notre bénéfice, à nous, toutes les preuves que nous traversons. Et la deuxième raison, c'est que Dieu, on en parlera à la fin, Dieu veut montrer à Job que de lui-même, il ne peut pas être parfait. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. Et c'est, nous tous aussi, on passe par là où Dieu te montre que tu n'es pas parfait. C'est juste qu'il est à côté de toi. C'est pourquoi tu arrives à vaincre le péché. Si Dieu se retire, même toi, tu risques aussi de blasphémer. tu risques de faire comme Pierre. Il y a des gens qui sont étonnés de voir que Pierre a renié le Seigneur. Mais bien aimé, si on te laissait, on laissait le diable aussi t'accabler comme on avait laissé le diable accabler Pierre, peut-être toi tu ferais pire. Donc le Seigneur n'agit pas parce qu'il a aussi un plan concernant le perfectionnement de Job, comme et c'est pareil pour nous tous. On prend le chapitre 24.
Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole les troupeaux.
Est-ce qu'on peut plutôt d'abord prier par rapport à cette révélation-là de chercher la face de Dieu, que Dieu nous aide à toujours aller au-delà d'une vie coutumière qu'on a avec lui. Donc, par exemple, quand nous voyons de mauvaises choses sur la terre, on voit juste une information, on entend juste une information comme celle qu'il y a 1,3 milliard d'Indiens dans leur pays, et que dans ce 1,3 milliard, il n'y a même pas plus de 100 millions de chrétiens. Donc une information comme ça te fait comprendre qu'il y a 1,2 milliard de païens dans un seul pays. Je pense qu'une information comme ça doit nous pousser tous à chercher Dieu, à le rencontrer pour dire on fait quoi, vraiment discuter avec lui face à face. Donc prions que cela soit suscité en nous, de vouloir vraiment rencontrer Dieu, d'aller à la montagne, d'aller le chercher par la prière, d'une manière ou d'une autre, par des questionnements, par des discussions, par la parole, chercher son plan, comprendre et l'amener à intervenir, quoi, intervenir, qu'on ait cette soif-là, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons pas demeurer dans une vie chrétienne où nous nous satisfaisons de notre salut personnel et de quelques membres de la famille, du salut de quelques membres de la famille. Nous nous satisfaisons de nos activités habituelles. Seigneur, nous ne voulons pas de cette vie-là. Nous voulons chercher ta face. Comme toi-même, tu nous ordonnes dans le psaume 27, « Mon âme dit de ta part, cherchez ma face. » Seigneur, que nous tous, nous soyons pris de la volonté de chercher ta face en ce qui concerne la conversion de nos amis à l'école, de nos amis au travail. Chercher ta face en ce qui concerne notre pays. Qu'on laisse pas les choses comme ça, vivant dans la routine. Non, Seigneur, nous voulons pas vivre dans la routine. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer, qu'il y ait une audience pour qu'on t'explique la situation afin que tu interviennes. Seigneur, amène-nous à ce stade-là, que nous soyons pas des gens qui nous contentons du peu, mais des gens qui voulons vraiment que ta gloire inonde toute la terre. Amène-nous, Seigneur, dans cette dimension, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chapitre 24.
Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes.
Voilà, là Job est en train d'expliquer le sort de malheureux sur terre, quoi. Il y a des gens qui souffrent sur terre. Il y a des malheureux sur terre. Voilà. Il est en train de dresser le tableau des malheureux sur terre. Nous continuons. Voilà, c'était juste une parenthèse.
Et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exaltent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés et ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi ? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne perd jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi ? Le sein maternel l'oublie. Les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et ses enfants. Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non. Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout, quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés. Et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent. Ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira ? Qui réduira mes paroles à néant ?
Voilà, là nous sommes dans le problème continuel des justes qui est la prospérité des méchants. Donc, mais c'est mélangé. Il dit que les méchants vraiment réussissent leur coup et on les attrape même pas. Voilà. Ça, c'est l'observation habituelle qu'on peut avoir. Et on avait dit dans les séances précédentes, cette observation est due au fait que nous, on est en train de souffrir. C'est pourquoi, au moment où nous, on souffre, on a l'impression que les méchants n'ont pas de problème. Car nous faisons une comparaison dans le temps présent. Mais on avait dit la dernière fois, si on veut prendre du temps pour observer ce méchant-là jusqu'au bout, on verra bien qu'il ne s'en sort pas, comme on dit en français, il ne l'emporte pas au paradis. Donc ça finit par se détériorer pour lui et même exploser carrément. Mais donc Job est en train de dresser le tableau de malheur. C'est comme si, en quelque sorte, il manifeste un désaccord avec la manière de faire de Dieu qui laisse vraiment les méchants prospérer. Mais toutefois, il dit que, lui-même le dit, le méchant, ça lui arrive aussi parfois d'être frappé, d'être ébranlé. Mais curieusement, il s'en sort à nouveau. Mais finalement, il finira par être éliminé quand même. Il montre la dureté de ce spectacle. Le spectacle que l'humanité nous offre, c'est un spectacle du règne des méchants. Et on a même l'impression que les meilleurs et les bons, ben, ils n'ont pas voix au chapitre. Quand tu es très intelligent, tu es bon, eh bien, c'est pas toi qui vas être président. C'est pas toi qui vas être ministre. C'est les escrocs. Ils peuvent être aussi intelligents, mais c'est les mauvais qui prennent ce genre de poste. Et on ne comprend pas. On dit, mais Dieu, il est où ? Mais bien aimé, il faut se souvenir d'une chose. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il voyait les méchants ? Est-ce qu'il y avait même des méchants ? Il n'y en avait même pas. Il ne pouvait pas parler comme Job. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, on a l'impression que les méchants prospèrent ? Mais c'est parce que nous, on a rejeté Dieu. Nous, l'humanité, nous avons rejeté Dieu. Donc, ne nous étonnons pas qu'en rejetant le vrai chef, le grand chef, que les mauvais chefs prennent la place. Et ce spectacle-là n'est pas laissé par Dieu pour nous décourager. C'est pour nous dire, voilà ce que vous réservent les méchants, les chefs méchants de ce monde. Changez de chef. Venez à moi. Acceptez-moi comme chef. Votre vie va changer. Moi, je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je suis le bon berger. Les faux bergers, voilà ce qu'ils vous font. Et non satisfaits qu'ils aient le pouvoir, ils vous maltraitent. C'est ça la réalité. Le monde est mauvais. Sans Dieu, le monde est mauvais. Donc Dieu laisse ça pour nous montrer que le monde est mauvais. Mais beaucoup utilisent ça pour dire, mais si tout ça arrive, Dieu est absent. Non, Job lui-même le dit. Il le dit, non, même le méchant, parfois aussi, il finit quand même par être frappé. Et puis, il se relève, mais la fin de tout ça, c'est qu'il sera éliminé quand même. Voilà, Dieu reste le Tout-Puissant. Dieu reste Dieu. Mais nous devons avouer que ce n'est pas facile de voir les méchants prospérer. Ce n'est pas facile. Quand on voit, bien aimé, comment aujourd'hui les gens sont manipulés au point que d'eux-mêmes, ils vont s'offrir en test pour un vaccin qui n'a pas été testé, qui n'a pas connu ce qu'on appelle la troisième étape de fabrication d'un vaccin. Les gens, d'eux-mêmes, ils vont pour être des cobayes sans qu'on leur promette de l'argent. Donc quand on voit le peuple manipulé comme ça, ça fait mal. Quand on voit ce qui s'est passé pour les 6 millions de Juifs morts pendant la Deuxième Guerre mondiale par Hitler, ça fait mal. Quand on voit ce qui s'est passé avec l'esclavage, il y a eu l'esclavage de tous les peuples, mais l'esclavage le plus récent, ça a été l'esclavage des Noirs. Et je lisais encore une histoire aujourd'hui où, vous étiez une famille, votre propriétaire pouvait vendre une partie de la famille, il pouvait vendre une partie de la famille, et vous vous séparez à jamais comme ça. Donc, il pouvait vendre même une femme. Et donc, du coup, d'une manière physique, on te fait quitter ton mari. Parce que le mari a un propriétaire, la femme a un autre propriétaire, la femme a un autre propriétaire, et le propriétaire de la femme décide de la vendre. Le mari est privé de sa femme, les enfants sont privés de leur maman. Alors, quand on entend des choses comme ça, on se dit, mais Dieu, où est-ce qu'il était pour faire quelque chose? J'ai lu ça aujourd'hui. J'étais écœuré. Ça fait mal. Mais il y a une chose, bien aimée, que nous devons comprendre. Cette terre ne dépasse pas 120 ans. Ce sont des souffrances atroces, oui. Mais pourquoi alors ne pas s'inscrire dans l'arche du Seigneur pour vivre éternellement loin de tout ça? Pourquoi se rebeller contre Dieu? C'est nous qui avons commencé à le rejeter. Maintenant, il nous a livrés au monde. Que nous voyons ce que c'est que le monde. Pour que nous retournions à lui pour dire c'est vrai, le monde est méchant. Mais beaucoup, au lieu de comprendre ça, ils s'en prennent à Dieu alors que c'est l'homme qui n'a pas voulu de Dieu. C'est ça le problème. Ce n'est pas la faute de Dieu. L'homme n'a pas voulu de Dieu. Alors Dieu lui dit, mais regarde sans moi ce que devient le monde. C'est tout. Que toutes ces atrocités nous ramènent à Dieu. Et d'ailleurs, une des femmes qui vivait tout ça, elle s'est donnée à Dieu à fond. À fond. Harriet Tubman, elle s'est donnée à Dieu. Et elle a contribué à libérer beaucoup d'autres Noirs. Et on lui a donné le nom, on l'a surnommé Moïse. Mais elle s'est donnée à Jésus. Elle a compris qu'il n'y avait qu'une seule personne qui aimait tous les humains, c'est Dieu. Vaut mieux aller vers lui. Mais beaucoup aujourd'hui disent « Ah, mais non, on va s'inventer des religions noires pour compenser. » Non, bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu de noir, un Dieu de blanc. Il n'y a qu'un seul Dieu. Soyons simples et humbles. Retournons à lui. Retournons à lui. Je suis conscient des souffrances qu'on peut voir dans l'humanité. Il y a des atrocités que parfois même nous-mêmes on a commises. Voilà. Mais que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne l'humanité et que les humains se tournent vers Dieu. La solution, c'est changer de chef. Retourner à Dieu comme autorité, comme chef. Voilà. C'est ça que Job nous dresse dans le chapitre 24, les atrocités dans l'humanité. Et on se dit, mais Dieu, il est où? Dieu nous dit, c'est pas, vous n'avez pas voulu de moi. Voilà, je vous montre ce que c'est que vivre sans Dieu. Voilà la réalité, quoi. Donc, nous continuons, chapitre 25.
Bildad de Shuach prit la parole et dit, « La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau?
Tout ce que dit Bildad est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Il dit la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Dieu seul est tout puissant. Il fait régner de la paix dans ses hautes régions. Donc là où il y a Dieu, il y a la paix. Dieu est bon. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Donc il montre la grandeur de l'armée de Dieu. Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas? Il montre comment la lumière éclaire tout homme. C'est la lumière qui vient de Dieu. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il dit, mais entre l'homme et Dieu, qui peut être juste? C'est Dieu. Voilà. Donc tout ce que dit Bildad est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que nous devrions nous dire. Même dans les plus grands malheurs, se dire non. Nous dire non, mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Il est juste, il est bon. Ce n'est pas moi qui vais être plus intelligent que lui. Tout ce qu'il dit est vrai. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante. Il montre que Dieu est très pur. C'est tellement pur que même la lune paraît n'avoir pas d'éclairage et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Et c'est vrai, nous ne sommes qu'un ver, que des vers. Nous ne sommes que des vers. Les 120 ans pour nous, on trouve ça long, mais ce n'est pas long. À l'aune de l'éternité, ce n'est pas long. Donc, humilions-nous. Tout ce qu'il dit est vrai. Nous, on veut donner des leçons à Dieu. Donc, il dit à Job, on ne peut pas donner des leçons à Dieu. Il connaît tout. Il est tout puissant. Il est juste. Tu n'es pas plus juste que lui. Et il a raison, Bildad. Il a raison, Bildad. Mais bon, le problème, c'est quoi? C'est que quand on est en face de quelqu'un qui souffre, tout ce qu'on trouve, c'est de dire que Dieu ne se trompe pas, il est juste, saint. C'est vrai, d'accord. Mais la personne souffre quand même. Il faut consoler. Il faut donner des solutions. Venir taper sur la table un postulat, Dieu est bon, tout puissant, il ne se trompe pas, allez, tais-toi. C'est pas faux, mais on pourrait faire mieux que ça. Voilà. C'est pas faux, tout ce que Bildad dit, c'est vrai, c'est très vrai. Mais bien aimé, c'est négliger la souffrance de l'autre. Ça, c'est pas bon. Il y a souffrance et souffrance, bien-aimé. Vous savez, il y a des souffrances qui ont rendu des gens fous. Attention. Des chrétiens persécutés, il y en a qui sont devenus fous. Ou quelqu'un sort de prison à cause de la persécution. les deux parents sont en prison. Et les sœurs sont obligées de se prostituer pour nourrir les petits. Quand il voit ses sœurs se prostituer pour eux, il devient fou. Ça choque. On se dit, mais où est Dieu? Mais Dieu dit, je suis au contrôle. Malgré ce choc-là, vous savez, il y a un verset qui dit quoi? La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ça, ce verset-là répond à ce genre de situation. Où tu te dis, mais ça, la manière de faire de Dieu est une folie. Comment toi, tu dis que ces gens-là sont des enfants? Même si, admettons que les enfants de ces deux chrétiens-là n'étaient pas convertis, mais les deux chrétiens ont accepté la prison à cause de ton nom, et tu laisses ces enfants, leurs enfants, comme ça. Ça paraît être une folie. Mais la Bible dit la folie de Dieu. Parce que parfois on cherche comment appliquer certains versets. Quand on dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, on se dit, mais à quel moment il y a la folie de Dieu? La folie de Dieu, c'est-à-dire que certaines procédures de Dieu, certaines façons de faire, paraissent folles à nos yeux. Maintenant, la Bible nous dit que même ces folies-là, en elle, il y a une sagesse plus grande que la sagesse des hommes. Mais nous ne voyons pas tout. Nous sommes petits. Qui vous dit que celui qui est devenu fou est lâché de Dieu? On ne maîtrise pas tout ça. Notre refuge, c'est tout ce que Bildad dit. Dieu connaît tout, il est tout puissant. Il est bon, il est juste. On ne peut pas être juste que lui, plus juste que lui. Pour le traiter d'injuste. Traiter quelqu'un d'injuste, c'est prétendre être plus juste que lui. C'est ça notre refuge. On se dit, ah, je ne comprends pas. Mais tiens, il y a un verset qui dit, même ce que je ne comprends pas est plus intelligent que ma sagesse. La folie de Dieu dépasse la sagesse des hommes. Vous savez, je m'étais posé cette question. Au fait, pendant l'étude, là, c'est là qu'on me répond, en fait. Moi, j'avais posé la question à Dieu, mais comment ce verset-là l'appliquer? Donc là, ça vient là quand je suis en train de parler. Voilà. Donc, c'est des exemples comme ça où on se dit, mais les deux parents sont en prison à cause du Christ. Et les deux filles sont obligées de se prostituer pour nourrir les autres enfants. Comment expliquer ça? Il n'y a pas toujours de belles histoires où, avec Alain Yuan, il est en prison, mais il y a des gens inconnus, invisibles, qui viennent donner la nourriture à sa famille. Il n'y a pas que de belles histoires comme ça. Belles histoires entre guillemets, parce que faire 22 ans en prison, c'est pas si facile que ça. Mais c'est pour dire qu'il y a des chrétiens qui ont vraiment souffert de A à Z. Ce n'est pas juste être emprisonné. On se dit, là, mais c'est quoi? Bildad nous dit, la puissance appartient à Dieu. Voilà. Dans les lieux célestes, il y a la paix. Donc, où est-ce que nous devons aller lorsque ça ne va pas? Dans les lieux célestes. À travers la prière. Cherchez à voir Dieu. Cherchez les lieux célestes. Priez. Vous savez, Richard Rembrandt dit qu'il a tellement été maltraité, il a tellement souffert qu'il avait perdu tous les versets de la Bible. Il avait tout perdu. Même le souvenir des versets de la Bible, il n'avait plus. Mais il n'y avait qu'une seule chose qui restait, c'est Dieu lui-même. Dieu était là. Il pouvait faire une discussion, il n'y avait plus de versets dans la tête. Vous savez, il y a souffrance et souffrance. Mais Dieu est plus grand que tout ça. Bildad a raison, mais simplement, il pouvait faire mieux. On peut dire à quelqu'un, frère, je sais que tu souffres beaucoup, au point que je sais que moi, à ta place, je me serais peut-être rebellé. Mais notre Dieu ne peut pas se tromper. D'ailleurs, c'est pour nous avons cru en lui parce qu'il est Dieu. qui se trompe nous fait supérieurs à lui. Je ne sais même pas comment te consoler, mais on va prier pour que Dieu te fortifie. Voilà. Mais venir fermer la bouche à quelqu'un, attends, tais-toi, Dieu est plus grand, ce n'est pas un homme qui peut se comparer à Dieu. Tout ça est vrai, mais on peut faire mieux que ça. Rajouter à cela, même avant cela, commencer par la consolation. Consoler, montrer l'intérêt de Dieu pour la personne. Exprimer notre infériorité. Vous savez, moi, j'ai un principe, le principe suivant. Quand quelqu'un a souffert plus que moi pour Dieu, je tourne ma langue 7 fois avant de l'accuser de quoi que ce soit, même si en apparence, que je dis bien en apparence, parce que vous savez, beaucoup de choses que nous, on pense que c'est une erreur chez l'autre, beaucoup ne sont que des erreurs apparentes, parce qu'avec le temps, on se rend compte que ce n'était pas une erreur. Vous savez, quand Moïse a pris une autre femme, ça a fait des problèmes. Mais pour tous ces gens-là, c'était une erreur. Mais Dieu nous a montré que lui n'a pas considéré ça ainsi. Voilà, donc il faut faire attention. Quand Joseph prend une femme étrangère, nulle part Dieu dit que c'est une erreur. Mais pourtant, lui-même dit qu'il ne fallait pas. Mais voilà. Donc, il y a des choses. Le principe suivant, c'est que quand quelqu'un, vous savez, des gens comme le frère André, qui a pris des petits porteurs, vous savez, les avions où on monte à 2 seulement, qui a pris ça je ne sais pas comment compter le nombre de fois qu'il s'est mis en danger. Il a pris ce genre d'avion. Il est parti dans des zones où tu ne pouvais pas revenir, d'où tu ne pouvais pas revenir. Quand des gens comme ça prennent 1 million de Bibles et donnent à l'église orthodoxe, on a entendu des gens vouloir dire oh, ben c'est l'œcuménisme. Non, la Bible c'est pour sauver tout le monde. Pourquoi on ne donnerait pas la Bible à l'église orthodoxe? Avant de critiquer de telles personnes, il faut se poser la question, est-ce que toi tu as souffert plus que lui? Il faut être simple dans la vie. Jésus lui-même dit dans Jean 15, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Toi, tu es bien assis en train de regarder Internet sur ton divan. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais avant de te comparer à quelqu'un qui risque sa vie pour prêcher devant le Hamas, frère André a prêché au Hamas, il est là, il prêche au Hamas Jésus-Christ, aux gens du Hamas. Et il sort de là vivant. Avant de critiquer quelqu'un comme ça, il faut bien vérifier que tu as raison. Parce que lui, sa vie, par sa vie, il démontre qu'il ne vit que pour Dieu. Parce que les discours, tout le monde peut se... On peut se corriger tous, chaque jour, mais ce qui va trancher, c'est ta vie. On verra qui donne sa vie pour Dieu. C'est ça qui compte. La différence entre Jésus et les pharisiens, ce n'est pas les discours. Même si c'est vrai que le discours de Jésus était véridique. Mais la vraie différence, parce que dans les pharisiens donnaient aussi les discours de la Bible, de la loi de Moïse. Mais là où Jésus les dépasse, c'est que Jésus donne sa vie. Clairement, là c'est maintenant indiscutable. Il donne sa vie. Les autres, ils sont riches, ils ont de belles maisons. Jésus lui donne sa vie. Bien-aimé, c'est un conseil gratuit. N'osons pas attaquer les gens qui souffrent plus que nous sans tourner la langue 7 fois. Voilà. Parce que quelqu'un qui souffre ainsi et qui continue à croire en Dieu, c'est souvent quelqu'un qui lui est attaché aussi, en vérité. On n'a pas dit que toute souffrance est synonyme de vérité. Parce qu'il y a des musulmans aussi qui souffrent, il y a des bouddhistes qui souffrent, il y a tous ceux qui souffrent. On est en train de parler des chrétiens qui se sacrifient pour le Seigneur et pour les autres. Il faut tourner la langue 7 fois. Il faut bien vérifier que c'est qu'on... On n'a pas dit qu'ils ne sont pas non plus non critiquables. On dit tout simplement qu'il faut être très prudent parce qu'on risque de commettre les mêmes erreurs que les amis de Job il voit quelqu'un souffrir, mais garder la foi en Dieu, au lieu de lui porter un certain respect, il préfère chercher la petite faille pour taper dessus. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est des médecins du néant. C'est des faux sauveurs. Donc, lisons Job chapitre 26.
Job prit la parole et dit : comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence ? Quelle abondance de sagesse tu fais paraître ? À qui s'adressent tes paroles ? Et qui est-ce qui t'inspire ? Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance ?
Voilà. Là, Job, vous savez, donc, il oscille de la plainte à une certaine adoration, à certaines louanges, pour dire que lui aussi tient Dieu. Et donc là, il nous parle du Dieu créateur. Donc il démontre que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et il y a un verset au verset 7. Le verset 7 est quelque chose de très, très important. Parce que ces livres-là qu'on est en train de lire sont des livres qui ont été écrits. Le livre de Job, c'est qui est sûr, c'est avant. Ça parle des histoires qui ont eu lieu avant 1000 ans, avant Jésus, quoi. Avant Jésus, peut-être 1000 ans avant Jésus. Et au verset 7, il est écrit : il étend le septentrion, c'est-à-dire le nord sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est contraire à la logique de ces époques-là où les gens ne pouvaient pas imaginer que quelque chose qui nous porte lui-même soit porté par rien. Donc il dit que la terre est suspendue dans le néant. Ça c'est quelque chose qui n'était pas concevable à l'époque de Job. Ça, c'est vraiment une révélation. Aujourd'hui, pour nous, c'est normal. La Terre est une planète. Il y a le vide tout autour. Donc, nous, pour nous, c'est normal. La Terre est suspendue dans le néant. Mais à l'époque, par exemple, à l'époque des Grecs, les Grecs, ça vient après Job. L'époque des Grecs, oui, c'est eux qui régnaient. Mais ça vient après Job. Mais les Grecs qui étaient censés être, donc, à l'époque, les gens les plus savants, le plus sachant, eh bien, ces gens-là considéraient que la terre était plate et qu'il y avait leur dieu qui se nomme Atlas qui portait la terre. Donc la terre était comme une assiette portée par leur dieu Atlas. Donc on ne pouvait pas, le cerveau ne pouvait pas imaginer que quelque chose tiennent d'autres choses tout en étant suspendues, puisqu'il n'y avait pas d'exemple de ça, parce que nous, on a des exemples. Il y a l'avion qui est un exemple de quelque chose qui tient d'autres personnes. Nous, on est à l'intérieur, mais on est au-dessus. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Ils avaient peut-être les oiseaux, mais les oiseaux ne portent pas autre chose. Donc, ils n'avaient pas un exemple de quelque chose, surtout de la grandeur de la Terre. Comment ils pouvaient imaginer que la Terre soit suspendue dans le vide ? Et ça, beaucoup de nos aînés l'ont utilisé, hein, ce Job 26:7, pour montrer la révélation divine, quoi. Dieu seul pouvait dire ça, révéler ça à Job, que la terre était suspendue. Donc, on voit plein de révélations comme ça dans le livre de Job, dans le livre aussi des psaumes et des proverbes. On voit d'Ecclésiaste, on voit des révélations sur la création qui surprennent par rapport à la connaissance scientifique de l'époque, qui nous montrent que vraiment c'est Dieu qui les inspirait, puisque la connaissance scientifique de l'époque n'avait pas ça, hein, n'était pas arrivé à ce niveau-là. Il n'y a rien que l'exemple du lavage des mains, de la propreté, de l'hygiène. Quand on lit le livre de Lévitique, on voit l'hygiène. Aller faire les excréments, les selles, en dehors de la ville, on voit l'hygiène. Se purifier les mains, on voit l'hygiène. On se souvient d'ailleurs, les pharisiens, ils s'étaient plaints de ça, mais il faut laver les mains avant de... Mais tout ça, je peux vous dire qu'en Europe, ça a commencé peut-être à partir de 1700. Hein. En Europe, c'était considéré même comme dangereux de se laver. Mais les Juifs, eux, ils étaient déjà dans ça 2000 ans avant. 1500 ans avant Jésus, ils étaient déjà dans ça. L'hygiène qui éloigne les microbes, qui éloigne les germes. Ils étaient même dans l'hygiène des murs avec les moisissures. Donc bien avant, alors que l'Europe a commencé juste laver les mains, hein, ça a commencé peut-être dans les années 1700. Donc quand quelqu'un a remarqué que quand on se lavait les mains en accouchant les femmes n'avaient pas de conséquences graves, on a compris l'importance de se laver les mains. Dans les années peut-être 1700. Il y a 4 siècles environ. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que beaucoup de choses qui sont découvertes par la science étaient déjà dites 3000 ans, 4000 avant. Et un exemple qu'on retrouve dans ce livre, c'est le psaume, c'est Job 26:7, il étend le nord sur le vide. Il y a le vide autour de la terre. Il suspend la terre sur le néant. Il dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Donc, Dieu a empêché les eaux d'aller plus loin. Bien aimé, c'est quelque chose de remarquable. Hein. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans l'Ecclésiaste. Les fleuves, tous les fleuves, vous savez depuis combien de temps les fleuves se jettent à la mer? Ça fait des milliers d'années que les fleuves se jettent à la mer, mais la mer ne se remplit pas. C'est-à-dire que la mer n'a pas, les océans ne submergent pas la terre. Parce que depuis tout le temps que les fleuves coulent dans les océans, normalement il fallait que les fleuves, ça finisse par submerger la terre. Non, Dieu a vraiment fixé ses limites-là. Voilà. Ça, ce sont les miracles du Seigneur. Et il parle aussi du nuage. Hein. Est-ce que on peut voir là où il parle des nuages? C'est toujours dans ce chapitre-là. Verset 8. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous le poids. Mais c'est extraordinaire. Dans les nuages qui sont suspendus au ciel, il y a de l'eau. Mais il dit, mais il fallait normalement que ça éclate sous leur poids. Non. Les nuages ont une constitution, une texture qui leur permettent de rester suspendus dans les airs. Mais tout en ayant de l'eau dedans. Et il n'y a pas comme une enveloppe, ce n'est pas un avion. Un avion est fait d'une enveloppe qui porte les choses. Mais les nuages n'ont pas d'enveloppe. Ce ne sont pas des casseroles qui portent cette eau-là. L'eau est comme ça, suspendue. Et il y a des nuages qui pèsent, mais ils ne tombent pas sous leur poids. L'eau ne tombe. Donc il faut des phénomènes atmosphériques pour faire pleuvoir. C'est extraordinaire tout ça. Un nuage, c'est déjà un grand miracle. Un nuage, c'est de l'eau suspendue. Avec un grand poids. Job dit, mais avec le poids qu'ils ont, comment ils fondent pas sur à cause de leur poids. Job nous montre l'étendue de la grandeur de Dieu. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Voilà. Dieu est grand. Il est grand. C'est ce que Job veut nous montrer à travers ce passage. Il reconnaît que Dieu est grand. Il reconnaît ça. Ne nous méprenons pas sur lui. Voilà. Il reconnaît cela. Et il dit même au verset 14, c'est le clou, hein. Ce sont là les bords de ses voies. Il dit tout ce qu'on peut voir là. On a cité les nuages, la limitation des océans, le fait que la terre soit suspendue dans le vide. Il dit, mais tout ça, ce ne sont que les bords de ses voies. C'est-à-dire que c'est juste l'extrémité de sa grandeur, les extrémités. Il appelle ça encore le bruit léger qui nous en parvient. C'est le bruit léger de Dieu. Donc Dieu lui-même est plus grand que ça infiniment. Rien que ça, bien-aimé, ça me fait peur là. Parce que si tout ce qu'on voit, ce ne sont que le bord de ses voies. C'est le bruit léger. Tout ce qu'on voit. Et Dieu, donc, il est comment? Comment ne pas le craindre? Comment ne pas le craindre? Prions que le Seigneur nous fasse de nous des adorateurs. Vous savez, quand on lit de tels versets, on comprend Jean 4, quand Jésus dit « Dieu cherche des adorateurs ». Parce que Dieu seul est conscient de ce qu'il est. Et il nous demande à nous de voir, d'entrevoir à travers les bords dont Job parle. C'est les bords de sa gloire, le bruit léger de sa grandeur. Il nous demande d'entrevoir le tonnerre qu'il peut être. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Il dit, avec les avant-goûts que je vous montre, entrevoyez maintenant ce que doit être la totalité. Ce qu'il doit faire de nous tous, chaque jour, des adorateurs. Parce que c'est pourquoi c'est dit adorateur en esprit, puisque l'esprit va nous permettre, à partir des bords, d'entrevoir, de supposer la grandeur qui est cachée derrière tout ça. Ça, c'est l'esprit qui va nous aider. Donc, prions que Dieu fasse de nous des gens spirituels qui entrevoyons sa gloire et donc, du coup, qui pouvons vraiment l'adorer en esprit et en vérité chaque jour. Père éternel, oh, aie pitié de nous. Combien nous sommes terrestres, combien nous sommes charnels pour rester à la surface, pour rester dans les bords. Oh, Papa, pardonne-nous et que ton esprit nous entraîne à l'intérieur. Que ton esprit nous sorte des bords, nous sorte du bruit léger, pour nous permettre de flairer, d'humer, de sentir ta grandeur, ton tonnerre, le tonnerre du Dieu Tout-Puissant, afin que nous fléchissions les genoux chaque matin, chaque soir, à midi, à 4 heures, pour dire « Oh Dieu, tu es grand ». Seigneur, pardonne-nous parce qu'on s'est laissé avoir par nos souffrances, par nos contrariétés, au point de devenir aveugle concernant ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Pardonne-nous et amène-nous plus haut, Papa. Amène-nous plus haut. Amène-nous dans tes hauteurs, là où règne la paix, là où règne la vraie adoration, et que quand on en descende, on proclame que tu es vivant sur la terre. Mon âme te désire chaque jour, et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur est après ton nom. Mon âme te désire chaque jour, et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur est après ton nom. Chapitre 27.
Job prit de nouveau la parole, sous forme sentencieuse, et dit « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. » Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant, mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisser aller à des vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ.
Voilà, on bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Nous, on a vu ça. On a vu des gens mourir et les humains qui fêtent. Quand des gens comme les Staline sont morts, c'était la fête. Bon, là, j'ai pas vu. C'était en 1953, je crois. Voilà. Mais on a vu les images. Donc, quand les mauvais meurent, les gens fêtent, ils célèbrent ça. C'est honteux d'être mauvais, de régner en sachant que les gens ne t'aiment pas. C'est pas bon. Et Job fait comprendre à ses amis qu'il sait ça. Il sait ça. Il sait que le sort du méchant, c'est la souffrance, c'est la perdition. Il sait, il leur dit, je sais, il se couche et il meurt dépouillé. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Et nous, avec notre âge, on a vu ça, on a vu des présidents. Dernièrement, on nous a montré le président, on a vu une vidéo du président, de l'ex-président du Burkina Faso, Compaoré, le jour de son anniversaire, il n'était même pas conscient. Il était pris par la main par quelqu'un. On lui souhaitait joyeux anniversaire. Il était comme ailleurs. Voilà, l'homme qui faisait trembler tout un pays, c'est fini. Donc voilà le sort des humains sans Dieu. Voilà. Et Job dit, je connais ça. Ce n'est pas moi qui vais raconter de mauvaises choses sur Dieu. Job a compris que le but, c'est de l'amener à cela. Hein. Il dit au verset 3, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. » Voilà, donc Job comprend qu'on veut le transformer en mauvais. Il dit non, je refuse. Je sais que Dieu est fidèle. Voilà. Il commence à retrouver un peu sa science, d'autrefois sa connaissance. Il est toujours ébranlé, mais au fond de lui, il réalise, il sait que Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, et il le proclame. Il dit que Dieu se charge de l'impie. L'impie n'est pas impuni. L'impie sera puni. Qu'on le voit ou pas maintenant, retenons ça, l'impie sera puni et on verra ça. Voilà, Dieu est juste, Job le reconnaît, mais il continue à dire que lui, Job, il est innocent, il n'a rien fait de mal qui puisse mériter ce qu'il subit, pour qu'il puisse vivre ce qu'il vit. C'est pourquoi on l'appelle un type de Christ, parce que Christ a subi des maux qui ne venaient pas de son propre comportement, lui. Et Job est dans une guerre, au milieu d'une guerre entre Satan et Dieu. Il subit des choses pour l'honneur de Dieu. Et non pas parce que lui, il est mauvais. Voilà. C'est ça, quoi. Et il continue à persister sur le fait qu'il est innocent. A-t-il raison d'insister sur son innocence? On ne peut pas dire qu'il ait raison d'insister sur son innocence, quoique nous l'avouons, nous l'admettons que c'était un homme juste. Mais, comme nous allons le voir à la fin, parce qu'on ne veut pas dire les choses avant, c'est Dieu qui reste seul juge. Voilà. L'homme ne peut pas se targuer de son innocence. Et on se souvient de Paul qui disait « Je ne me reproche rien, mais c'est Dieu qui est juge. » Effectivement, l'homme en lui-même, par esprit, par logique plutôt, de comparaison humaine, peut se trouver juste. Parce que bon, nos yeux voient les autres, nos oreilles entendent ce qui se passe, nos cerveaux réfléchissent, et parfois très vite. On peut rapidement se mettre soi-même deuxième de classe, ou troisième de classe, ou premier. Donc, ça peut se faire. Et dans cette logique-là, et dire, bon, je ne me reproche rien. Mais, comme Bildad l'a souligné, et Job lui-même, Dieu seul est juste, Dieu seul est juge, et aucun homme ne peut atteindre la pureté de Dieu par lui-même. Voilà. Donc, nous sommes dans ces conditions-là où Job, d'un côté, reconnaît quand même. Il reconnaît que Dieu est juste, Dieu frappera l'impie, mais il défend son innocence. Il dit, voilà, je défendrai toujours mon innocence et Troisièmement, Job, il comprend que le but de tout ça, c'est de l'amener à se séparer de Dieu. Il comprend ça. Il dit, ma bouche ne sortira pas des mots qui entraînent cette séparation-là. Voilà, bien-aimé, le but du diable, c'est de te séparer de Dieu. C'est ça son but. Il sait que séparé de Dieu, tu es free. Donc maintenant, il peut faire de toi ce qu'il veut, quoi. Le but, c'est de te séparer de Dieu. Et Dieu laisse faire pour agrandir notre foi. Il ne faut pas que notre foi dépende de ce que nous vivons de positif. Notre foi doit dépendre de l'invisible. L'apôtre Paul dit, c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles viennent des choses invisibles. Donc Dieu veut nous amener dans cette dimension-là où nous vivons de l'invisible. La foi qui a amené Abraham à vouloir sacrifier son fils sous ordre, selon l'ordre de Dieu. Voilà. C'est une foi qui dépend de l'invisible. Or, la plupart des chrétiens ont encore une foi qui dépend des bienfaits qu'ils vivent, qui dépend de ce qu'ils voient. Or, il est écrit aussi dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. » Et Dieu voudrait toujours nous amener à ce niveau-là, parce que c'est ce niveau-là qui nous rend supérieurs des autres humains, puisque que nous dépendions de ce que Dieu réalise autour de nous de positif. En quoi sommes-nous différents de tous ceux qui aussi sont partis faire un fétiche et ça a marché, ils ont vu des choses. On n'est pas différents. Donc, on a juste changé de féticheur, c'est tout. Là où nous devenons supérieurs à l'humain normal, c'est que nous pouvons vivre heureux alors que nous n'avons pas la chose humaine qui doit nous rendre, terrestre qui doit nous rendre heureux. Voilà, c'est là la supériorité. C'est ce que Nebuchadnezzar a confessé. Il a dit, ah, ces gens-là, alors qu'on les envoyait dans la fournaise, ils continuent à croire en Dieu. Il dit, là se trouvait la supériorité. Qu'ils aient été sauvés de la fournaise, c'était une deuxième supériorité. Il y avait deux supériorités. Il y avait le miracle d'être sauvé de la fournaise, mais la plus grande supériorité des deux, c'était le fait que ces gens-là, en tant qu'humains, se sentent bien, sachant qu'ils vont dans le feu. Ça a dépassé Nebuchadnezzar. Et il a dit, ces gens ont tellement cru en leur Dieu qu'ils ont préféré entrer dans la fournaise. Donc, il a vu que Dieu était réel, plus par ça que par le miracle. Même si le miracle en lui-même, il est éblouissant. Quel miracle, sortir du feu sans en avoir l'odeur. Sans être brûlé. Un feu qui a tué les gens qui vous y jetaient. Mais Nebuchadnezzar, ce qui l'a impressionné, c'est l'avant. Comment ces gens-là pouvaient aller tranquillement, étant sûrs de leur Dieu, dans une pareille épreuve. Je crois qu'on a envoyé une pensée du jour là-dessus. C'est-à-dire que la Bible que beaucoup de gens vont lire, ça sera ça. Ça sera notre vie. Ça sera la Bible que les gens vont lire. Le fils de Richard Rembrandt, quand ses parents sont entrés en prison, il s'est éloigné de Dieu. Il avait 10 ans, il errait dans les rues, il ne savait pas quoi manger, il était récupéré par-ci, par-là. Et il est entré dans les jeunesses communistes, tout ça. Et un jour, il vient visiter sa maman en prison. Il y a prison et prison. Il voit l'état de sa maman. Et sa maman lui dit, j'ai oublié son nom, le fils, elle dit à son fils, suis Jésus, mon fils, crois en Jésus. Alors ce garçon-là a dit, Dieu peut faire beaucoup de miracles. Il a dit que ma maman me dise de suivre Jésus. Dans les conditions dans lesquelles elle était, me suffisait pour croire en Dieu. Il a dit qu'il était dépassé de voir quelqu'un dans ces conditions-là continuer à croire en Dieu. Parce que lui, il a quitté Dieu parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Mais ses conditions à lui n'étaient pas bonnes, mais il était à l'extérieur. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez toujours trouver quelque chose à manger, même dans les poubelles. Mais ces prisons-là, vous savez, c'était des prisons où on vous sortait parfois dans le froid, en hiver, on vous baignait de force dans la rivière. Et puis, vous n'avez pas de serviette. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on ne veut même pas trop raconter pour ne pas faire peur. Et il voit sa maman dans ces conditions-là, qui lui dit, crois en Jésus. Il est dépassé. Il est dépassé. Ce jour-là, sa vie a été transformée. Il a dit, cet acte-là m'a convaincu de la réalité de Jésus. Un humain ne peut pas tenir dans ces conditions-là, et continuer à croire en Jésus comme ça. Et sa vie a été transformée. Vous voyez, bien aimé, les discours, c'est bien. Puisque tout vient quand même des discours de la parole. Mais il faut que la parole devienne chair. Il faut qu'elle devienne réalité. C'est ça que les gens vont lire. C'est ça que ton mari va lire. C'est écrit aussi dans 1 Pierre 3. Femmes, comportez-vous, les femmes qui ont des maris païens. Votre comportement va leur parler. Ce sera la Bible pour eux. C'est ça que vos enfants vont lire. C'est ça que tes parents vont lire. Tu es la Bible vivante. Que le Seigneur vraiment nous aide à être des Bibles vivantes, faire et vivre des choses que l'être humain normal ne peut pas vivre et être content. Mais nous, on est heureux, on est content. Expérimenter aussi des miracles que l'homme ne peut pas faire non plus. On n'est pas que dans le négatif, on est dans une globalité. Voilà. Prions que Dieu nous amène dans cette dimension-là. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à rendre par notre chair la Bible visible aux autres, soit dans les miracles, dans des choses que l'humain ne peut pas voir ni faire, soit dans la détermination à te servir malgré les souffrances, les tribulations. Aide-nous, Seigneur, à faire la différence par notre comportement et nos actes. Seigneur, nous te bénissons pour l'exemple de Job qui, malgré ses souffrances, continue à reconnaître que tu es juste, tout-puissant et Dieu. Seigneur, nous savons que parfois la colère peut nous amener à pécher contre toi en t'accusant de ne pas voir nos souffrances. Nous te demandons pardon et nous prions que tu nous amènes à être fermes dans notre foi, quoi qu'il arrive. Comme les trois amis de Daniel, comme Daniel dans la fosse au lion. Au nom de Jésus-Christ, merci pour cette étude, papa. Nous venons prier que nous soyons des chrétiens vrais, des gens qui ne dépendons pas de la vue, mais qui dépendons de l'esprit, qui dépendons de ta parole, des gens dont la foi est inébranlable. Manifeste-toi, Seigneur. Amène-nous à cette dimension. Constitue-toi, Seigneur, un nouveau peuple qui va te servir à 100%. Seul toi, tu peux faire cela, papa. Comme Abraham qui avait quitté sa famille, qui avait quitté sa stabilité pour aller dans l'instabilité avec toi. Que nos maisons ne soient pas un piège pour nous, ni nos enfants, ni le mariage, ni l'argent, ni la stabilité du travail. Que toutes ces choses terrestres ne soient pas un piège pour nous, pour nous empêcher d'expérimenter ton tonnerre. Nous ne voulons pas rester dans les bords, dans le bruit léger. Nous voulons expérimenter le tonnerre, Seigneur. Ta gloire. Amène-nous à cela, Papa. Dans ta bonté, dans ta miséricorde. Pourquoi nous disons dans ta bonté, dans ta miséricorde? Parce que nous savons que nous ne méritons pas cela, mais nous savons que tu es miséricordieux. Alors nous voulons vivre de cette miséricorde et expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous nous attendons à voir cela s'accomplir. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve mardi prochain pour la suite Job 28 avec son verset spécial. L'intelligence, hein, c'est 28-28, c'est facile à mémoriser. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà. Que Dieu nous bénisse.